Depuis quelques dimanches maintenant, on regarde une série sur les Corinthiens appelée « La gloire de Dieu dans l'Église, au milieu de son Église ». Et le chapitre 12 était introduit de 1 Corinthiens par ce verset. « Ce qui concerne les réalités spirituelles, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance. » Et c'est bien que le Seigneur ne nous laisse pas dans l'ignorance là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on a appris? J'essaie de résumer... des sections avec des phrases dont du verset 1 à 11 dans l'Église. Dieu se manifeste et œuvre. Il se manifeste et il œuvre par des dons utiles et variés que le Saint-Esprit accorde à chacun. Dieu a créé l'Église à l'image du corps humain, composé d'une multitude d'organes qui ensemble forment un tout. Et la semaine dernière, je crois que c'était... On avait vu ensemble, jusqu'au verset 13:3, chacun a une position différente dans le corps de Christ, mais seulement l'amour doit nous animer. Et on était resté sur cette question, mais quel est cet amour qu'il est si important qu'il soit notre moteur dans l'Église? Et l'apôtre ne veut pas nous laisser... dans l'ignorance à ce sujet-là. Alors, on peut lire le fameux chapitre 13 de l'Épître aux Corinthiens. Donc, les trois premiers versets, on les avait lus la semaine dernière, relatifs au fait que on peut faire une multitude de choses, mais si on le fait sans amour, ça ne compte pas. Et au verset 4, donc, l'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal. Il se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Les prophéties disparaîtront. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. En effet, nous connaissons partiellement et nous prophétisons partiellement. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Verset 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, de manière peu claire. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement. Mais alors, je connaîtrai complètement, tout comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses restent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Jusqu'ici. Alors l'amour, ce qu'il est, ce qu'il n'est pas, son avenir... et sa supériorité aujourd'hui même. Alors bien sûr, c'est un passage ici qui s'adresse à l'Église, hein. Mais le message que j'ai préparé ici pour l'Église, mais pas que, c'est l'amour et c'est universel, hein. On ne peut pas dire qu'il est la propriété de tel ou tel groupe, alors que chacun d'entre nous puissions être encouragé ce matin. Seigneur notre Père Céleste, merci pour ce beau texte que tu nous as laissé, que tu nous as accordé, cette sommet de cette épître et ce sommet de toute la littérature que le monde a pu recevoir, a pu produire, qui concerne ton amour. Merci de pouvoir nous en approcher ce matin. On va le faire bien partiellement et bien incomplètement. Mais permets que ça nous fasse du bien, Seigneur, que ça nous renouvelle, que ça nous rafraîchisse, que ça nous redonne des forces pour persévérer dans cette voie que tu nous as tracée. Et nous te prions, Seigneur, pour également tous ceux qui n'ont pas encore saisi cet amour, qu'ils puissent, Seigneur, s'en approprier aussi. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, l'amour, ce qu'il est et ce qu'il n'est pas. Pour faciliter la chose. J'ai prévu de mettre les versets à l'écran. Le verset 4, l'amour est premièrement, il répète trois fois, l'amour est, il commence à souligner un petit peu ce qu'est premièrement l'amour. Et en tout en haut, il met la patience. L'amour est patient. C'est quelque chose de nous qu'on ne mettrait pas là. Moi, si je mettais mais non, l'apôtre, il souligne premièrement la patience. Et cette patience, on la retrouve tout au long de notre Nouveau Testament. J'ai choisi deux versets. En Matthieu 18, 26, vous connaissez les mots de ce serviteur qui était endetté, qui n'arrivait pas à rembourser son maître. Aie patience envers moi, je te paierai tout. L'amour est patient. Soyez donc patients jusqu'à l'avènement du Seigneur, nous encourage Jacques, chapitre 5, verset 8. Le Seigneur use de patience envers tous, ne voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. De Pierre 3, 9, le Seigneur use de patience. L'amour est patient. Il est plein de bonté. Matthieu 11, 13. Mon joug est doux et mon fardeau léger, dit le Seigneur, plein, rempli de douceur. Le Très-Haut est bon pour les ingrats et pour les méchants, affirme Jésus. On a trouvé ça dans l'évangile de Luc, chapitre 6. Il est patient, il est plein de bonté, il n'est pas envieux. Qu'est-ce que c'est l'envie ? Vous savez, l'exemple des frères de Joseph, qui ont été jaloux de Joseph. Ils l'ont envié et ils l'ont vendu pour être esclave et amené en Égypte. L'amour ne se vante pas, ne s'enfle pas d'orgueil. La connaissance enfle, mais l'amour, lui, il édifie. Donc, ces trois premières, ce premier verset 4 plante le décor. Et au verset 5, l'amour ne fait pas de mal. L'amour ne fait pas de mal. Les hommes, on a cette capacité de faire du mal en voulant aimer. On veut aimer, mais on le fait avec tellement de maladresse. L'amour ne fait rien de malhonnête. Il ne triche pas, il ne fait pas de manipulation. Il ne fait pas de louvoiement, il ne passe pas par des chemins détournés pour arriver à obtenir quelque chose de quelqu'un. Rien de malhonnête et il ne cherche pas son intérêt, faut dire. Littéralement, c'est l'amour ne cherche pas soi-même. C'est là que le bas blesse pour nous. Bien souvent, on cherche... À travers l'amour, on cherche quelque chose pour nous, en fait. Nos motivations sont souvent couvertes d'une forme d'égoïsme. Et c'est très triste quand on en prend conscience. L'amour ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas, bien sûr. Et il ne soupçonne pas le mal. Voilà un problème qu'on peut rencontrer facilement. Il ne pense pas le mal, il ne l'impute pas. Il n'a pas de regard dessus. L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour ne fait pas de mal. Verset 6, j'ai appelé ça « L'amour est vivant ». Aimer, ce n'est pas être passif, ce n'est pas être comme un idiot, déconnecté de la réalité dans un autre monde où tout serait parfait. Ou... Non, l'amour réagit à ce qui est juste et à ce qui est injuste. Il réagit. Verset 7. J'ai appelé ça le verset 7, l'amour souffre. L'amour souffre. Il pardonne tout. Ben, s'il pardonne tout, c'est qu'il est blessé régulièrement. S'il croit tout, c'est qu'il fait confiance malgré les apparences. S'il espère tout, c'est parce qu'il y est souvent dans des situations où il y aurait de quoi déprimer, de quoi baisser les bras. Et s'il supporte tout, c'est qu'il est patient. Il est patient. L'amour est patient. L'amour, ce qu'il n'est, ce qu'il n'est pas. Ensuite, l'amour, son avenir. Versets 8 et 10. L'amour ne meurt jamais. C'est le mot là qui est utilisé, c'est la, ne tombe jamais. Si on voulait dire littéralement. Et moi, j'ai appelé ça l'amour n'est jamais déboulonné. Vous savez, à la chute de l'Union soviétique, ben, il y avait beaucoup de statues qui ont dû être déboulonnées. Une page était tournée de leur histoire et il fallait effacer tout ce qui connaissait une période et voilà, on a fait beaucoup de déboulonnage. Et certaines villes, même de notre pays, enlèvent des statues qui autrefois représentaient quelque chose, mais on veut les effacer. Maintenant, elles ne sont plus dans l'air du temps. Pour l'amour, il ne s'agit pas de cela. Et Paul parle ici ensuite des dons, la connaissance, la prophétie, le don spectaculaire de parler en langue. Ben, aussi haut qu'on le tienne en estime un jour, cela passera, cela sera vide, cela sera inutile. Mais pas l'amour. L'amour ne sera jamais déboulonné. On ne se séparera jamais de l'amour, verset 11. L'amour n'intervient pas de façon transitoire dans notre développement. Non. On pourrait peut-être le comparer, vous savez, à ces fusées qui doivent mettre un satellite sur orbite, elles partent de la Terre et puis elles vont placer le satellite qui va se déployer en orbite et toute cette immense fusée avec tous ses étages. En fait, tous ces étages devront un jour se détacher et être mis de côté parce que l'objectif, c'est que l'amour doit être placé sur orbite. On se séparera de bien des choses ici-bas, mais jusque dans l'éternité, on ne se séparera jamais de l'amour. Verset 12. Un jour, nous verrons l'amour tel qu'il est. Alors, j'avais prévu de vous amener un miroir. Je ne l'ai pas fait, je l'ai oublié. C'est vrai que dans l'Antiquité, vous savez, les miroirs étaient un petit peu pas clairs, pas nets, et on voyait pas bien son visage. Mais là, je pensais au miroir comme le rétroviseur, vous savez. rétroviseur, ça permet de regarder ce qui est derrière. Et puis on voit que des toutes petites choses, et puis pour voir sur les côtés, c'est très difficile, on le tord un peu comme ça, on le tord comme ça, et si je devais vous voir, je devrais me mettre comme ça. Et on n'a qu'une petite image. Ou bien on a des WhatsApp, maintenant on voit des vidéos quand on fait des appels, et on voit la personne qui nous parle, et c'était hier, Morel a passé son papa sur WhatsApp, et puis il y avait la maman de son papa qui était là, et moi j'ai confondu avec Mako, la maman de Morel, et c'était la maman de Pierre, le papa de Morel. Mais je ne voyais pas bien l'image. C'est notre situation maintenant, on ne voit pas bien, on voit tout petit comme ça. On voit de manière pas en 3D, grand comme ça. Mais un jour, ce sera comme ça qu'on contemplera les choses. Un jour, ce sera comme ça. Un jour, on verra pour de vrai. On verra l'amour. Parce que Dieu est amour. Mais l'apôtre, dans le dernier verset 13, nous ramène ici et maintenant. L'amour, sa supériorité aujourd'hui. Trois choses restent. La foi. C'est par la foi, c'est par la confiance en Dieu qu'on est sauvé. Et on doit conserver jusqu'à la fin, jusqu'à notre dernier souffle, on doit garder la foi. Et l'espérance. On attend le retour du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Le jour du Seigneur est porteur de précieuses promesses pour nous. La résurrection, la glorification, voir le Seigneur être réunis tous ensemble autour de lui. Ce jour-là, il n'y aura plus de larmes. Les jours anciens seront passés. L'espérance. Mais l'amour est plus grand que la foi et que l'espérance, nous dit l'apôtre. La foi, c'est un petit peu le moyen d'aller au ciel, et l'espérance, c'est un petit peu anticiper cela par la pensée. Mais l'amour que l'on vit jour après jour, ça... C'est un petit peu comme répandre le parfum du ciel, dès ici-bas. Répandre le parfum du ciel en aimant. Alors, j'ai prévu de passer un petit peu de temps dans les applications. L'amour dans la vie de l'Église, premièrement, l'amour dans la vie de l'Église, il écrit à une communauté. Je l'ai déjà dit en commençant, hein, l'Église, qui est un marqueur de l'identité de l'Église de Jésus, elle est marquée, identifiée par l'amour. Tout ce qui se fait dans l'Église doit se faire dans l'amour. Et tout ce qui s'est fait sans amour, ben, ça compte pas. Ça compte pas. Dans le chapitre des Corinthiens, on a le 12 qui parle des dons, le 14 qui parle des dons, et au milieu, entre les deux, à la place principale, l'apôtre nous parle de l'amour. La pointe de la pensée de Dieu pour nous, dans cet épître. Éphésiens 4, on l'a lu la semaine dernière. Dieu a donné des personnes à son Église pour la protéger, pour l'édifier, la faire grandir, la faire croître. Et nous avions lu en 4:13, en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier s'édifie lui-même dans l'amour. Je saute les petites phrases là, dans les citations que je vais faire en général. Je n'ai pas mis le verset complet. Il s'édifie dans l'amour. Romains chapitre 12, il parle là également des dons du Saint-Esprit. Et avant, début du chapitre 12, vous savez, l'apôtre demande, offrit vos corps à Dieu comme un sacrifice saint. Et il demande à discerner ce qui est bon, agréable et parfait, discerner la volonté de Dieu. Et ensuite, il parle des dons, et après, au verset 9 à 10, nous lisons ceci. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Et rivalisez d'estime réciproque. Pierre fait la même chose dans la première épître. C'est la deuxième, excusez-moi. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres afin de vous livrer à la prière avant tout. Ayez un amour ardent les uns pour les autres, car l'amour couvrira une foule de péchés. Exercez l'hospitalité. Il s'agit de plus que de l'hospitalité physique, c'est l'hospitalité du cœur. Les uns envers les autres, sans murmurer, comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, mettez à chacun au service des autres le don que vous avez reçu. La lettre à l'église d'Éphèse en Apocalypse 2:5. On l'a lu dans la rencontre autour de la Bible et Patrick nous en avait parlé. Nous lisons « Je connais tes œuvres ». C'est Jésus qui écrit à l'église d'Éphèse. L'église s'était un peu relâchée depuis que les apôtres n'étaient plus là. Et Jésus leur écrit « Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. » Oui, tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es pas lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé, repens-toi, pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'enlèverai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne changes d'attitude. Alors, ça me fait penser à notre église, à nous ici, quand je regarde en arrière. Bon, on regarde le passé, on pense toujours que le passé était mieux, hein, ça c'est... Mais je me dis, est-ce qu'on n'a pas perdu ce zèle qu'on avait avant, cet amour pour le Seigneur, cet amour les uns pour les autres? Les personnes rentraient dans l'église et disaient, ah, il y a de l'amour parmi vous. Je crains qu'on se soit un peu rétréci ces dernières années avec les difficultés qu'on a traversées, que notre cœur se soit rétréci. Je voudrais maintenant vous parler de Rouma. Qui est Rouma ? Rouma, elle est l'inverse de l'amour. Hein, c'est l'amour à l'envers. Rouma est impatient et pas gentil. Rouma envie ce que les autres ont. Rouma parle de lui-même et il est orgueilleux. Il triche, il cherche son avantage, il s'irrite et voit le mal partout. Les choses tordues le font rigoler. Mais les choses droites l'indiffèrent. Il est intransigeant, il ne croit personne, il n'espère rien des autres, il fuit à la moindre difficulté. Bon, je dois avouer qu'il y a dans mon caractère, je reconnais des traits de Rouma. Peut-être je ne suis pas le seul dans ce cas. Ce que j'ai qui m'a marqué dans cette préparation de ce message, c'est la perspective que Dieu donnait à l'amour. C'est elle qui a la victoire, qui aura la victoire un jour. C'est l'amour qui triomphe. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est ainsi que termine Paul dans Romains chapitre 8. Alors il reste ce conseil du Seigneur de l'église d'Éphèse. Se repentir. Ne laisser aucune place à Rouma. Alors les progrès bien sûr sont possibles, ils sont souhaitables. Ils sont indispensables, mais surtout, ils sont bons. Ils sont bons. C'est une très bonne chose d'aimer. Je voudrais terminer par une ouverture. En tant que chrétien, on pêche, souvent, parce qu'on se déclare comme les champions de l'amour. Pour nous, on est les champions de l'amour. Mais on l'est beaucoup par les paroles, à travers nos chants, à travers nos hymnes, à travers, si on nous pose la question. Bien sûr, on aime, bien sûr. Mais dans les faits, dans la réalité, on trahit souvent cette belle confession. Et certainement, on a trop de choses à pardonner, à demander pardon. Et non seulement entre chrétiens, mais au-delà, à toutes les personnes qui nous observent et qui nous regardent dans le monde. Pour autant, le monde dit, vous savez cette expression, trop bon, trop con. C'est faux. Mais c'est quelque chose qui est admis auprès de tant de nos contemporains. Si aimer, c'est souffrir, alors je préfère ne pas aimer. Ce n'est pas un bon choix. Alors le monde a, bien sûr, sur l'amour, tout un vernis de belles déclarations. Mais dans les faits, on le voit qu'il rend fidèlement un culte à l'égoïsme. Tous nos candidats à l'élection sont finalement tous des militants du grand parti. Et ce grand parti s'appelle le parti des moi d'abord, comme les Schtroumpfs. Moi, je vote pour moi. Et c'est le 21e siècle, le siècle de la technologie, a pas fait mieux que le 20e finalement. Il a su engendrer un Vladimir Poutine. Hein. Alors, le salut du monde est seulement dans l'amour tel que Dieu le définit. Et il n'y a pas d'autre hypothèse que cela. Marc me partageait en arrivant la situation dramatique qu'il a vécue. Quelqu'un de ses voisins de la région parisienne, de cet enfant qui a décidé de mettre fin à ses jours à l'âge de 13 ans. L'amour est très bon. L'amour est très très bon. L'amour est essentiel. Quelqu'un dira, comment pourrais-je aimer moi qui n'ai jamais été aimé? Ou bien, quelqu'un peut dire aussi, je donne, mais je reçois rien en retour. C'est une situation tellement difficile. Je m'épuise, j'ai l'impression de m'épuiser, de me vider. Le Seigneur a toujours des réponses personnalisées aux personnes qui sont venues à lui. On l'a lu dans l'évangile de Luc. Et sur la croix, Jésus a porté toute la misère du monde, c'est-à-dire la misère de chacun d'entre nous. Cependant, la Bible ne se focalise pas sur nos circonstances. Elle affirme clairement que le cœur du problème de tous les hommes, sans exception, c'est une faillite dans leur relation avec Dieu. C'est là que se trouve le problème. Je voudrais vous lire un poème que j'ai trouvé dans Méditation quotidienne, là, c'était la semaine dernière, je crois. Et après, on va chanter le chant, l'amour de Dieu, et puis on pourra avoir un moment de prière. Alors, Morel, si tu peux trouver le 301, et pour vous faire un petit peu de guitare, et puis je vais lire le poème. Donc vous avez le chant sous les yeux, hein, vous n'avez pas besoin de le chercher dans le recueil. Les eaux t'ont vu, ô Dieu. Les eaux t'ont vu, elles ont tremblé. Les cimes t'ont vu, ô Dieu. Les cimes t'ont vu, elles ont chancelé. Les anges t'ont vu, ô Dieu. Les anges t'ont vu et ils t'ont loué. Je t'ai vu, ô Dieu. Je t'ai vu, mais ils sont sages, les eaux, les cimes et les anges. Ils sont sages car, dans ma folie, ô Dieu, dans ma folie, moi, je t'ai défié. Faire l'œuvre que tu as prévue dans mon cœur et autour de nous, Seigneur, que cet amour puisse se manifester, se répandre, nous animer, nous habiter, grandir en nous, renouvelle notre zèle, renouvelle notre appétit de lui, renouvelle notre détachement de toute autre chose. Seigneur, que nous, le canal de cet amour que tu veux répandre par tes enfants autour de nous soit ouvert pleinement et qu'il coule, qu'il se répande. Merci Seigneur pour la beauté de ce plan d'amour que tu as prévu. Merci pour Jésus-Christ. Merci pour son exemple à la croix. Sois béni, notre Père céleste, en son bon nom. Amen.